Plusieurs larrons, brigands ennemis et adversaires du roi Henri VI, notre sire, dont les noms suivent, c'est à savoir Colin le Hérichon, Guillaume le Noir, Pierre de la Brisque, Michel le Béné, Pierre Hervieux, Jean Raoul, Perrin Regnault, Colin le Gendre et Thomas de la Lande, dit Massot, lesquels, pour leur démérite, ont été décapités et pendus au dit lieu de Saint-Lô. Ordonnance judiciaire délivrée le 8 octobre 1430.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Lors de notre précédente chronique, nous en étions arrivés dans cette histoire d'Angleterre au traité de Troyes de 1420 qui prévoyait en fait une véritable refondation des deux monarchies, puisque un seul souverain devait régner de part et d'autre de la Manche. À la mort de Charles VI de France, eh bien Henri V devait devenir roi d'Angleterre et de France, écartant par là même le fils du roi Charles, le dauphin Charles. Or, il est bien évident que cela aurait changé l'histoire du Moyen-Âge en Occident, parce qu'il y aurait eu un système qui aurait créé un État hybride avec une culture anglaise, une culture française, les élites anglaises d'ailleurs parlant le français, mais ce projet a finalement échoué. Or, c'est justement cet échec et donc la défaite de l'Angleterre dans cette guerre dite de 100 ans que je vous propose d'analyser aujourd'hui. Pourquoi donc le traité de Troyes n'a abouti à rien? D'abord, il faut dire que la nature s'y est mêlée. En effet, Henri V, roi d'Angleterre, avait eu le malheur de mourir le 31 août 1422, à l'âge de 35 ans. Le roi de France va mourir à son tour, Charles VI, le 3 décembre 1422. Ce qui fait qu'en quelques mois, le roi d'Angleterre et le roi de France disparaissent. Qui est le nouveau souverain? Eh bien, selon les termes du traité de Troyes, il s'agit de Henri VI, fils de Henri V. Le problème, c'est qu'il a 11 mois. Il faut donc organiser une régence. Et c'est l'oncle du petit roi, le duc de Bedford, qui devient régent. Donc, premier élément qui entre en jeu, c'est finalement la fragilité de la construction qui s'est constituée avec le traité de Troyes. Autre élément, et qui n'est pas négligeable, c'est que le dauphin Charles, installé à Bourges, refuse bien entendu les termes du traité. Il estime qu'avec la mort de son père, il est devenu Charles VII, roi de France. Alors par dérision, on l'appelle le roi de Bourges. Mais il est vrai qu'il est tout de même une épine dans le pied du duc de Bedford, puisque celui-ci proclame gouverner au nom du véritable roi de France, Henri VI, alors que à Bourges, eh bien, le dauphin s'estime souverain. C'est là qu'apparaît évidemment, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, la figure de Jeanne d'Arc. Elle se présente auprès du gentil dauphin, selon l'expression, et elle va indéniablement retourner une situation politique et militaire qui était très difficile pour le dauphin Charles. D'autant plus qu'il ne gouvernait pas le nord de la Seine et de la Loire. Il était plutôt maître des terres méridionales du royaume, et surtout il lui manquait une légitimité qui était celle du sacre. L'année 1429 est de ce point de vue-là déterminante parce que Jeanne réussit à libérer Orléans, à faire lever le siège d'Orléans. Elle bat les Anglais à Patay et, chose importante, elle amène le dauphin à Reims pour le sacre. Désormais, le roi de France est bien Charles. Il est loin de Dieu. Il a été béni du Saint-Crème. Et tout au long des années 1430, la situation tend à s'améliorer pour lui. En particulier, le duc Philippe le Bon, duc de Bourgogne, comprend que la situation tourne plutôt en la faveur du roi Valois et il mène des négociations pour aboutir à la paix d'Arras en 1435. Donc même si Jeanne meurt sur le bûcher en 1431, la situation s'est clairement améliorée. Mais il y a d'autres explications à avancer. C'est la question de la fiscalité. En effet, la guerre coûte cher. Le royaume d'Angleterre est beaucoup moins riche que le royaume de France et beaucoup moins peuplé. Aussi, la fiscalité pèse à la fois sur l'Angleterre elle-même, mais également sur les provinces dominées par l'Angleterre, à savoir la Normandie et l'Aquitaine. Et cette fiscalité rend impopulaire la guerre de l'autre côté de la Manche ou la guerre sur le sol français. Il faut bien voir que cette fiscalité est à la fois directe et indirecte. Et les deux États, d'ailleurs, sont obligés de s'appesantir sur la question fiscale. Le Royaume de France lui-même, s'il se dote, par exemple, à partir de 1445, d'une armée permanente, il le doit, entre autres, à une fiscalité de plus en plus importante. Il faut savoir que les commerces entre la Flandre, la Normandie et l'Angleterre est taxé lourdement. Les prix augmentent environ d'un tiers. Donc la fiscalité est aussi une cause de l'échec. L'Angleterre, sur le long terme, risque de ne pas pouvoir véritablement soutenir l'effort de guerre. Autre élément qui explique l'échec anglais, c'est la question que les historiens médiévistes ont étudiée récemment, la question de la résistance aux Anglais. Est-ce qu'il y a bien eu une résistance populaire dans les zones dominées par la couronne d'Angleterre ? Alors là, il faut faire un peu d'histoire contemporaine, parce que les téléspectateurs des années 1960 ont été nourris par les aventures de Thierry La Fronde, qui effectivement est un héros, un jeune paysan réfugié dans la forêt de Sologne et qui lutte contre l'occupant anglais. Le concepteur d'ailleurs de la série Thierry La Fronde est Jean-Claude Deret, qui va réaliser cette série. Lui-même a participé à la Seconde Guerre mondiale, il a fait partie de la deuxième DB, et donc il vit véritablement son expérience de la guerre et de la résistance pour faire son Thierry La Fronde. Alors évidemment, il y a un aspect anachronique de parler de résistance aux Anglais comme il y a eu une résistance française aux Allemands pendant les années 40-44. Mais il est vrai, et c'est pour cela que je vous ai lu un arrêt judiciaire de 1430, une série de soulèvements, de guérillas qui ont gêné les Anglais, y compris dans les territoires qui avaient été possession de la couronne d'Angleterre. Je pense par exemple à la Normandie, car les exécutés de Saint-Lô, que j'évoquais dans mon introduction, sont des paysans ou des petits bourgeois qui ont voulu résister surtout aux Anglais à cause des exactions. Parce que les troupes qui vivent sur le terrain, eh bien finalement, sont des troupes qui sont souvent pénibles à vivre pour les populations locales. N'exagérons pas non plus cette question de résistance, parce que on sait que, par exemple, des notables de Bordeaux, qui commerçaient facilement avec l'Angleterre, n'étaient pas défavorables à la présence de l'Angleterre, qui était finalement maîtresse en Aquitaine depuis déjà fort longtemps. Mais cette résistance a sans doute sapé aussi la présence anglaise dans une partie des terres dominées sur le sol français. Ensuite, eh bien, il y a la question des moyens militaires. Or, la France s'est dotée finalement de moyens militaires importants qui vont réussir à lui donner la victoire. De ce point de vue-là, les années 1440-1450 sont déterminantes. Dans un premier temps, au début des années 1450, la France réussit à prendre la Normandie. En effet, Rouen est assiégée et prise par les troupes françaises. D'autre part, l'Angleterre n'est plus en moyen de porter secours à la province perdue. Le 15 avril 1450, à Formigny, c'est à peine 3000 Anglais qui sont écrasés par la nouvelle artillerie française, et les villes de Falaise, de Caen, de Cherbourg tombent à leur tour. D'autre part, en Aquitaine, l'échec anglais est patent. Eh bien, Bordeaux va tomber en juin 451, les Anglais s'y réinstallent en octobre 1452, mais au final, après la bataille de Castillon de juillet 1453, c'est l'ensemble de l'Aquitaine qui tombe. L'Angleterre a bien perdu la guerre de Cent Ans. Mais qui plus est, cette guerre de Cent Ans va déboucher pour elle sur une guerre civile. En effet, Henri VI, comme Charles VI, devenant fou, eh bien, le pouvoir est à prendre. En 1455, éclate la guerre civile, qui couvait d'ailleurs depuis quelques années. La maison d'York, à la rose blanche, conteste le trône à la rose rouge de la maison de Lancastre. C'est pour cela qu'on appelle la guerre des deux roses. Et c'est finalement, après 1485, que Henri Tudor, réunissant les deux branches, et devient roi sous le nom d'Henri VII et permet ainsi à la monarchie anglaise de retrouver une stabilité.